Je suis à l'hôtel Tiffany à Genève avec Pablo Briones. Buenas tardes.
Buenas tardes.
On devait se rencontrer à la Berlinale et c'est frénétique la Berlinale. Il y a beaucoup de sollicitations, d'autant plus que là c'était la première présentation internationale dans un grand festival, la 69e Berlinale de Baracoa, premier long métrage inspiré d'un cours qu'on avait vu à Locarno, Pascal, qui en fait fait la part belle d'une histoire d'amitié entre deux jeunes à Cuba, deux jeunes à la différence d'âge improbable. On n'imagine pas qu'un jeune de 13 ans et un jeune de 9 ans puissent partager une telle amitié, et on les suit dans leur quotidien. Donc comment est née l'envie de faire un long métrage sur ces jeunes?
Alors, disons que l'origine du long métrage est à la fois celle du court métrage. Mmh. J'étais à Cuba pour participer à un atelier dirigé par Abbas Kiarostami.
Quelle chance.
À l'école de cinéma à Cuba, à l'EICTV. Et j'avais en tête une idée pour un court métrage, pour l'atelier. Et c'était une histoire dans laquelle il y avait un enfant qui cherchait un chat. Donc, j'avais besoin d'un enfant, surtout, et avant tout. Et je me suis rendu à Pueblo Textil, qui est un petit village qui est tout près de l'école de cinéma, au milieu de la campagne. L'école, elle est à la campagne aussi. Et en peu de temps, j'avais en tout cas 10 enfants autour de moi, tous très chouettes. Et au bout d'une heure, peut-être que j'avais déjà mon casting largement dépassé. Il y a eu Lionel et Antoine qui sont apparus un peu de côté aux autres enfants de leur monde. Ils se sont approchés vers moi. Avec une attitude de supervision, non? Ils sont venus avec une attitude de... disons, je voulais m'expliquer. C'est pas des enfants curieux de voir ce qui se passe à la place. Ils sont venus me voir, qu'est-ce qui se passe là? Donc je leur ai expliqué que je cherchais un enfant, tout ça. Et ils me plaçaient déjà. Et là, il me dit, Lionel, le plus petit, il me dit, mais pourquoi tu cherches qu'un enfant? Nous, on aimerait bien jouer, mais on aimerait bien être à deux. Donc je lui dis, bon, les deux, je ne sais pas si ça va être possible, hein, parce que mon histoire, il y a un enfant. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ton histoire? Qu'est-ce qui se passe dans ton film? Je lui explique, donc un enfant, un chat, qu'il le perdait, et puis de le chercher. Il me dit, bon, mais c'est évidemment mieux si on est à deux pour chercher le chat, n'est-ce pas? Donc voilà, cet aspect-là, ça m'a beaucoup plu, cet aspect de vivacité d'esprit, et puis qu'il négocie, donc qu'il me demande de lui raconter mon scénario et qu'il négocie tout de suite le scénario pour caster son pote avec lui. Et voilà, j'ai tout de suite aimé en fait ce qui était possible de faire ensemble alors qu'on ne se connaissait pas. On était déjà en train de créer quelque chose ensemble. Et alors, je lui proposais de faire un film avec les deux, mais qu'il allait falloir passer un peu de temps ensemble avant, parce que je n'allais pas faire l'histoire avec le chat, mais je voulais faire quelque chose qui s'approchent de leur vie, de leur quotidien. Et donc, on a partagé quelques jours hein, là dans le village. Et pendant ce jour-là, j'ai écrit mon petit scénario et on a tourné en très peu de temps, une après-midi, à la sortie de l'école. Même le premier plan du court-métrage, c'est les deux enfants qui sortent de l'école, c'est un plan documentaire. Et voilà, donc ça s'est tellement bien passé, la dynamique avec eux, entre eux, leur capacité à être à l'aise avec moi, avec la caméra, et puis ce qui était possible de faire avec eux comme acteur, cette performance qu'ils étaient capables de donner, et qui était quelque part, moi ce que je voulais c'est qu'ils soient eux et qu'ils vivent leur vie, et c'est pour ça que j'ai écrit une histoire très proche de leur vraie vie. Et ce qui était quand même fascinant, c'était leur capacité à faire ça, à jouer le jeu, d'être eux-mêmes, et sans beaucoup trop s'inquiéter de l'Argentin, et puis de l'Américain à la caméra. Et voilà, c'était une si belle expérience qu'on a... J'ai voulu très vite essayer quelque chose de plus ambitieux, et ça a été Baracoa, donc c'est le long métrage qu'on a présenté à la Berlinale. Le scénario, je l'ai écrit pendant 6 mois, à distance. J'étais ici à Genève, où je vis, et, par des coups de fil. Donc, on entretenait un peu la relation, et puis ce qu'ils font d'habitude l'été, comment ils s'occupent leur temps, ce qui allait se passer dans leur vie. Et petit à petit, j'ai écrit un scénario qui était une guide de tournage, une base sur laquelle on a travaillé. Ensuite, pendant le tournage, on a fait, disons, il y a eu des improvisations, des adaptations, de ce qui était possible de faire et puis de ce qui était peut-être mieux, de ce qu'on attendait aussi. Donc, dans ce sens-là, le film, il mélange beaucoup. En fait, c'est un film qui fait des allers-retours entre le documentaire et la fiction, ou bien qui s'en passe quelque part de cette frontière-là.
Mais les parties improvisées, est-ce qu'elles venaient de leur suggestion?
Alors, il y a des improvisations qui viennent de leur suggestion pendant qu'ils jouent une scène. Et il y a des improvisations aussi de ma part, dans le sens où ils sont en train de faire quelque chose de tout à fait naturel. Et là-dedans, je leur demande de glisser un sujet ou bien de faire évoluer l'action vers quelque chose qui fait partie du scénario ou bien quelque chose qui est lié au scénario, mais que j'ai envie à ce moment-là de l'essayer en fonction de l'énergie du moment. Donc, c'est vraiment des allers-retours en permanence.
Une
Donc,
émulation.
oui, et dès leur part et devant et derrière la caméra, ça va et ça vient tout le temps entre ce qui est écrit et puis ce qui est improvisé. C'est clair qu'il y a beaucoup d'espace pour l'improvisation, mais justement, c'est dans ce sens-là que je cherchais à travailler pour avoir une interprétation tout à fait naturelle. Et c'est assez incroyable parce que même il y a des moments, moi maintenant je dois réfléchir et me rappeler du moment du tournage pour me rendre compte à quel point des fois tout est très maîtrisé et on dirait que c'est complètement nature dans le sens que c'est quelque chose qui a été improvisé de tous les
Véridique.
côtés. Et puis des fois ça a l'air dirigé, écrit et puis ce n'est pas. Donc, à chaque fois qu'on me pose la question, mais par exemple, telle scène, alors c'était écrit, ils sont en train de jouer, à chaque fois qu'on me pose la question, je dois vraiment me concentrer et revenir sur le moment du tournage pour me rappeler. Mais bon, disons qu'il y a certains moments où, dans le film où la question se pose souvent, et parce que c'est des moments très forts. Hein, et là, en général, c'est qu'il y a une performance technique, disons, de cinéma, et à la fois c'est quelque chose qui est tellement mélangé à leur histoire de vie et à des choses qui les touchent vraiment que c'est complètement imprégné aussi de ça. Ce naturel, il est là parce que c'est lié à leur vie. Voilà. Donc ça les affecte vraiment, ce qu'ils discutent ou bien la façon dans laquelle ils s'interagissent avec d'autres enfants ou avec d'autres adultes. Et ça les affecte vraiment. Donc, ça se reflète en fait dans leur performance.
Ce qui est marrant, en tout cas, à voir en tant que spectateur, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça en tant que spectatrice, c'est la différence quand même sociale. Il y en a un qui est apparemment a plus, il parle d'un computador, là, il a un ordinateur, il va déménager, donc c'est le plus âgé, il va déménager à La Havane. En même temps, on les voit passer les vacances d'été, ils n'ont pas grand-chose, ils ont même peu, mais ils arrivent à vraiment à la fois réfléchir sur le sens de la vie, à s'occuper, à se divertir.
Oui, alors c'est alors ils ont une différence
Social,
une
non?
différence sociale,
Matériel.
matérielle qui est ce qui est beau, c'est que cette différence, elle n'est pas du tout visible du moment où ils sont dans un monde d'enfants où ils sont en train de s'occuper comme ils s'aiment avec peu de choses ou avec bon peu de choses. C'est pas vraiment peu de choses d'avoir toute une campagne pour jouer et sans vraiment se faire des soucis, sans vraiment en totale sécurité. Et ils ont beaucoup de liberté aussi parce qu'ils sont dans un environnement dans lequel rien peut leur arriver. Donc ils vivent cette liberté-là pleinement. Et tant que c'est comme ça, cette différence, elle n'est pas visible. Cette différence, elle vient avec le monde des adultes. Et dans le film, parce que c'est presque pas perceptible dans le film, parce qu'on voit aussi très peu le monde des adultes et on voit peu leur maison aussi.
On voit juste los abuelos,
Voilà,
les grands-parents.
on voit leurs grands-parents, les grandes-mères, on voit, On voit un petit peu quand même c'est là où il s'habite, mais on n'arrive pas à percevoir cette différence. Et elle se manifeste surtout avec la transition avec la vanne. C'est quand le plus grand il parle de la vanne, de à quel point c'est mieux la vanne, dans son cas en tout cas. Et puis il raconte tout ce qu'il a à la vanne, qui sont les raisons et ses motivations pour lesquelles il veut
Vivre là-bas.
vivre
Enfin.
là-bas chez son père. C'est là où on commence à le percevoir. Et puis ça parle aussi quand même de ce contraste qu'il y a entre la campagne et la ville. Et donc c'est des styles de vie différents aussi. Parce que tout à coup, on a moins de liberté. La vie, elle est beaucoup plus. Elle est peut-être moins facile dans le sens où les distances sont plus grandes. Pour faire des choses, il faut prendre les transports publics. On est entassé dans les transports publics. Donc, il y a beaucoup de chances, beaucoup de choses qui changent avec le style de vie en ville. Mais cette richesse, elle est plus matérielle et puis plus à la maison. Donc, ce qu'on a sur soi, un téléphone portable ou à la
Mais
maison,
pas humaine.
voilà, mais pas humaine, tout à fait. Et donc c'est pour ça aussi que j'aimais beaucoup l'idée de pouvoir faire un film sur ce dernier été qu'ils partagent ensemble dans ces conditions-là. C'est un peu une vision nostalgique d'une enfance d'autrefois ou bien d'une enfance rurale.
Et d'un passage à
Mais
la préadolescence et l'adolescence.
voilà. Donc qui quelque part symbolise ça aussi. Il y a ce passage de l'enfance à l'adolescence et il y a cet exil, cette sorte d'exil
Urbain.
urbain et puis qui est à la fois un peu le reflet de ce qui se passe au niveau d'une société à Cuba, qui est une société en pleine transition.
Et puis en même temps, la ville, à un moment donné, on va pas tout dévoiler du film, à un moment donné, Leonel, je sais pas s'il y a une dispute, ou en tout cas, il se sépare dans Cuba, et puis il se retrouve seul dans cette ville, il sait plus où il est, et puis c'est un peu anxiogène, parce que c'est une ville tentaculaire, il n'est pas habitué à ça par rapport à d'où il vient.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un des moments clés du film. Et parce que au Pueblo Textil, ils sont pas tout le temps ensemble. Ils sont pratiquement tout le temps ensemble, oui. Mais il y a des moments où ils se séparent. Et quand ils sont séparés, on craint rien. On voit juste comment ils s'occupent quand ils sont tout seuls. On ne se pose pas les questions. Alors que quand ils sont à La Havane et qu'ils se séparent, ils sont dans une grande ville au milieu du carnaval. Il y a beaucoup de monde, voilà, on connaît les ambiances des carnavals. Et c'est effectivement, on s'inquiète un peu par ce personnage-là. Et à la fois, c'est un moment clé du film et de l'histoire du personnage parce que il prend l'initiative quelque part. Alors, il se sépare parce qu'il se dispute, mais il prend un peu son chemin en main. Et il suit pas la volonté de son ami plus grand, et qui est quelque part chez lui. Et lui, il est ailleurs, hein, dans une ville qu'il ne connaît pas, au milieu de autant de monde. Mais il décide quand même d'aller plus loin. Il cherche pas son ami. Et donc, c'est un moment clé parce que c'est un moment dans lequel le personnage, il grandit. Et il décide même de s'égarer ce carnaval, et puis d'aller voir aussi, hein, comment elle est la vie dans la ville. En dehors de ces endroits où son ami l'amène. Donc c'est le moment où il décide d'explorer à sa façon, tout seul, une grande ville. Et voilà, ça symbolise quelque part ce moment où on est prêt à être tout seul, à se séparer et puis aller de l'avant. Voilà.
Un rite initiatique un peu.
Tout à fait. Oui.
J'ai bien compris le film. Moi, ma question, parce qu'on voit, je pense aux photos qu'il y a eu prises pendant la Berlinale où ils étaient présents. Lionel, je ne sais, je me trompe pas, avec sa maman, Antoine avec son papa.
Oui.
Première sortie de Cuba, en plus pour un festival en Europe. On a l'impression que Lionel, il est plus extraverti, plus peut-être dans en fait l'action par rapport à Antoine. D'ailleurs, c'est lui qui a essayé d'obtenir le co-scénario
Oui.
pour qu'ils soient les deux devant la caméra.
Oui. Alors, c'est tout à fait comme ça. Alors, il est beaucoup plus curieux,
Entreprenant.
oui, entreprenant, et il cherche beaucoup le dialogue avec les adultes aussi. C'est pour ça que ça a été possible de travailler si bien avec lui en développant certains sujets qui sont traités dans le film, des questions existentialistes. Antoine, il est autant sensible et entrepreneur. Il a vraiment une personnalité très forte, mais il a quelque chose à la fois où il se cache. Il met un peu une distance en se montrant indifférent, en fait. Et là, par exemple, bon, maintenant, ça fait 2 ans qu'il habite à La Havane. Il a son téléphone portable. Maintenant, plus c'est possible d'avoir une connexion Internet sur son téléphone portable. Si on a un petit peu de moyens, tant qu'on peut acheter un forfait. Et donc, lui, il est tout le temps avec son téléphone et même
Connecté.
tout le temps connecté avec son téléphone sur Facebook.
Et maintenant, c'est une
Et
star.
maintenant, je pense que oui, je pense que ça va un peu changer en fait.
Justement, la question après une telle expérience, j'imagine pour les gens du village, en tout cas pour le beau textile, ce sont des stars. Ça a changé leur vie, non?
Je pense. En même temps, pour le textile, c'est un endroit très très spécial parce que ils sont à côté de l'école de cinéma et les deux, ils se retrouvent quelque part presque seuls au milieu de la campagne. Donc, il y a toujours une dynamique entre l'école et le pôle textile dans lequel les gens sont habitués à travailler dans des films et ils sont habitués à la caméra. Et donc, c'est une sorte de laboratoire. Ce qui change peut-être, je ne connais pas l'histoire de tous les films qui ont été faits à l'école ou bien au pôle textile, mais ce qui change, en tout cas, c'est le fait que le film soit présenté dans un festival aussi important, où il y a autant de presse autour, et de se retrouver voilà, sur le tapis rouge, le protocole, à l'ambassade suisse, à
La
l'ambassade
conférence de presse.
espagnole, la conférence de presse, les journalistes, les caméras. Tout ça, c'est peut-être la grande différence aussi. C'est clair que ça crée ça crée quelque chose. Moi, je me demande comment ça va influencer aussi même le rapport des autres habitants
Les
du
villageois.
village, du pôle textile vis-à-vis de ses participations à des films. Disons que quelque part, j'espère que ça ne va pas influencer
Négativement.
négativement, dans le sens où que ça crée trop d'espoir, que du moment où on participe à un film, après on va s'attendre à des grandes premières, à
Cannes,
voyager,
Venise.
voilà. Donc j'espère que ce ne soit pas le cas. Et pour que ça reste un endroit comme il est, vraiment précieux pour la collaboration avec des jeunes cinéastes qui étudient à l'école.
Au début de l'interview, Pablo, on mentionnait que Pascal, c'était un court-métrage qui était écrit dans le cadre d'un atelier avec Abbas Kiarostami. Comment s'est déroulé cet atelier?
Alors cet atelier, et c'était exactement il y a 3 ans maintenant, et c'était un atelier avec une quarantaine de participants qui venaient de partout dans le monde, mais vraiment de toutes les nationalités. Et ça s'est fait sur une candidature. C'était une boîte de prod basée à Barcelone qui organisait ces ateliers. Ils avaient déjà organisé un atelier avec Abbas à Barcelone, un autre en Colombie. Et puis ça, c'était le troisième atelier à Cuba. Et cette fois-ci, c'était en collaboration avec l'école. Et il y avait donc les étudiants de l'atelier, plus les étudiants d'un master, Maestría de Cine y Ensayo, et aussi des étudiants qui viennent de partout dans le monde. Et voilà, donc ensemble, on était une quarantaine d'étudiants. Et puis c'était un atelier sur 2 semaines dans lequel il nous proposait, alors Abbas, il nous proposait des lieux qu'il avait interpellés à
Cuba.
Cuba. Et puis, voilà, il s'agissait d'aller à ces endroits. On avait tout à fait la liberté d'aller ailleurs aussi, mais il nous proposait déjà des lieux de base. Et puis, il s'agissait en très peu de temps d'écrire une histoire inspirée de personnes qu'on rencontrait pour pouvoir travailler de cette façon comme j'ai travaillé, comme ils travaillent. C'est-à-dire que écrire en fonction de ce qu'on observe, de qui on rencontre, donc de ce qui est possible de faire avec cette personne-là, mais pas pour une question de confort, mais au contraire, dans un souci de qualité, en fait,
De
de
véracité.
performance, de véracité et de performance. d'acteurs et d'unicité aussi. Le fait d'avoir un acteur qui est unique et qui est fort, alors qu'il a jamais joué. Donc c'était ça qu'il nous proposait. C'est quelque chose qu'il a toujours fait dans ses films. Et pour moi, c'était l'occasion parfaite aussi de m'essayer au jeu d'acteur. Parce que ça faisait des années que je ne savais plus ça. Je travaillais sur un autre registre qui était plus d'un cinéma d'essai. Et là, voilà, c'était l'occasion parfaite. Et ensuite, il suivait notre idée, il nous donnait un retour par rapport à nos idées. Et on lui montrait aussi des images du casting. Et puis après, il les circulait d'un tournage à un autre pour voir comment ça s'est passé. Et dans mon cas, il est venu me voir quand j'étais en train de tourner des scènes de repérage encore. Et à un moment donné, c'était dans le patio d'une église évangéliste où les enfants, ils avaient l'autorisation d'avoir des pigeons. Et donc Antoine, il avait des pigeons. C'est un peu une des activités du village, avoir des pigeons et puis réussir à attraper le pigeon à quelqu'un d'autre. Et augmenter la quantité de pigeons et comme ça. Donc il y a tout un business autour de ces pigeons-là. Et on est plus fort quand on arrive à avoir plus de pigeons des autres, qui ne sont plus après les pigeons des autres, mais le propre. Hein, bon, bref, donc Antoine, il était à fond là-dedans à cette époque-là. Et Abbas, il est passé à mon tournage à ce moment-là et il est resté un bon moment à nous observer. Mais voilà, il a pas intervenu parce qu'il voyait que tout allait très naturellement. On était à trois et on jouait à trois. Lui, il s'occupait de ces pigeons-là et on discutait ensemble. Et moi, j'étais avec ma caméra. Et voilà, donc ça a été comme ça. Disons qu'il intervenait quand il voyait. J'ai l'impression, non, qu'il intervenait dans le tournage quand il voyait que ça allait pas vraiment comme il fallait.
Sinon, s'il n'intervenait pas, c'était bon signe.
Voilà.
Et par contre, comment s'est passé le travail? Parce que, en fait, il y a l'intervention de Jess Freeman et Sean Clarke, c'est juste.
Oui, The
Comment?
Moving Picture Voice.
Voilà. Et comment ça s'est passé justement dans les coulisses pour savoir
Oui,
qui se répartissait quoi?
disons que c'est un type de collaboration assez particulière parce que ce n'est pas une co-direction à trois, mais une co-direction entre moi et un duo de réalisateurs.
Ouais, c'est spécial.
Donc déjà là, la forme, elle est un peu étrange. Et ça s'est passé comme ça. Alors, pendant cet atelier-là, j'ai rencontré Jace Freeman, qui a été le chef opérateur de Pascal. Et on a beaucoup aimé travailler ensemble. Et moi, ça faisait aussi longtemps que je ne cédais pas la caméra. Et avec lui, j'ai eu l'impression que c'était possible de le faire. Il fait un travail excellent. Et ça matchait aussi au niveau de personnalité entre nous. Et donc on a collaboré ensemble. Moi, je l'ai aidé pour son court-métrage et lui, il m'a aidé pour le mien. Et on a beaucoup aimé travailler ensemble. Et dès ce moment-là, donc il y avait l'idée de retourner pour faire un projet plus ambitieux. Moi, j'ai continué à travailler sur le scénario avec les enfants et à distance par des coups de fil. Et avec Jace, on a continué aussi l'idée de travailler ensemble à nouveau. Donc, je lui ai proposé de me. Il s'est passé quelque chose d'un peu similaire à ce qui s'est passé avec les enfants, en fait, dans le sens où je lui ai proposé donc de refaire la collaboration telle qu'on avait fait à l'atelier. Il m'a proposé, donc il était vraiment très partant, mais il m'a proposé du coup, en étant lui-même réalisateur, il m'a proposé du coup de co-réaliser. Et donc on n'avait pas une expérience de co-réalisation à l'atelier, donc on ne savait pas si c'était possible, mais comme ça s'était bien passé comme collaboration, c'était envisageable. Et il me proposait donc de faire une co-réalisation, mais pas tout seul, donc un peu comme Lionel et Antoine, mais parce que lui, il n'a jamais réalisé tout seul, il réalise depuis des années des films en duo avec son collègue Sean Clarke. Et ensemble, ils signent leur film comme The Moving Picture Boys, qui est le nom de leur société basée à Nashville. Et donc là, c'était un peu particulier quand même, parce qu'avec Sean, on ne se connaissait pas. Et on connaît donc les histoires de co-réalisation, c'est quand même très compliqué.
Mais ça peut être très fructueux.
Mais ça peut être très fructueux. Donc je crois qu'ici, c'était le cas. En tout cas, nous, on est très contents, mais on a des très bons retours aussi. Et il fallait inventer cette collaboration, parce que une
C'était
chose, c'est
nouveau.
il fallait y croire, et après il fallait l'inventer encore. Donc on a travaillé par Skype en amont du tournage. Et l'idée, c'était quand même que dans cette collaboration, qui avait une forme assez particulière, ce soit quand même moi en tête. Disons que du moment où ça pouvait devenir un peu plus compliqué, que ce soit quand même moi qui ai le dernier mot, dans le sens où il fallait quand même qu'on trouve une sorte de dynamique et les rendre possible, quoi qu'il en soit, le projet au moment du tournage. Et qui n'allait pas être une sorte de auto-sabotage. Et puis ça s'est très bien passé. On a dû apprendre à travailler ensemble au début du tournage. Et au début du tournage, ça ressemblait peut-être un petit peu plus à une sorte de triple co-direction. Et ce qui marchait pas très bien. Et il y avait aussi. Il fallait encore mettre au clair quel film on était en train de faire. Et
Entre
par contre,
la fiction et le documentaire, c'est ça?
voilà, entre fiction et documentaire, qu'est-ce qui est l'un, l'autre, pourquoi aussi il faut oublier cette frontière. Donc il y avait beaucoup de choses à mettre en commun. On avait des bagages très différents. Mais on a réussi, c'était très intense, mais on a réussi en peu de temps au début du tournage à trouver un équilibre et un fonctionnement qui a permis de démarrer assez tôt dans le tournage la façon dans laquelle on a fonctionné tout le long. Et essentiellement, c'était une dynamique dans laquelle, alors moi, je m'occupais principalement de la direction des enfants et des improvisations de scénarios. En fonction des énergies, des dialogues improvisés, des actions. Donc je m'occupais principalement de ça. Et The Moving Picture Boys, ils travaillaient comme ils le font d'habitude. C'est un duo qui fait de la non-fiction narrative et sans intervenir, sans donner de direction à ce qui se passe, mais plutôt en essayant d'anticiper la direction des choses. Donc ils sont un peu en retrait. La seule direction, ce n'est pas regarder la caméra. Donc ils sont un peu en retrait, mais ils suivent de près tout ce qui se passe, l'évolution des choses. Et on a travaillé de cette façon-là. Donc on savait ce qu'on allait tourner parce qu'on avait un scénario, et puis on allait à un endroit chercher un décor spécifique pour une série d'actions ou des sujets spécifiques. Mais ensuite, il y avait beaucoup de marge pour cette improvisation de mon côté, comme je l'ai dit, avec les acteurs, avec le scénario. Et de leur côté à eux, il y avait donc vraiment un souci pour l'image, le son, et aussi de ce point de vue, donc plus plastique, aussi des improvisations au niveau du scénario aussi. Donc c'est comme ça qu'on a fonctionné. Et après chaque jour de tournage, le soir, on faisait des séances de discussion où
Débriefing.
On débriefait pour voir alors comment on avait travaillé, qu'est-ce qui s'était passé, quelles étaient les nouvelles directions qu'on pouvait prendre. Et là, ça prenait à nouveau une sorte de, disons, la collaboration de co-réalisation, elle se renforçait dans le sens où on mettait tout sur la table et puis à trois, on discutait des directions à suivre. Hein. Et puis à évoquer des éventuels changements de scénario, des choses comme ça. Donc c'était un peu ça la dynamique.
Et pour la photographie et la musique?
Alors, photographie, vraiment, c'est tout le mérite à Jace. Moi, je me sens vraiment très à l'aise dans sa façon de travailler. Et dans ce sens-là, pour moi, c'était précieux de pouvoir lui faire confiance pleinement et de le laisser travailler lui. Et évidemment, il y avait des allers-retours, il y avait des choses que je lui demandais, et puis il y avait des fois où il suggérait des choses que pour moi n'étaient pas vraiment la meilleure façon de placer la caméra pour une action ou pour le déroulement des choses. Donc voilà, il y avait quand même des allers-retours, mais il travaillait quand même avec beaucoup de liberté. Par rapport à l'autre,
Sinon, je dis le choix
c'était
de la musique
le choix de
aussi.
la musique. Alors, le choix de la musique, ça, c'est un terrain pour le coup qui m'appartient complètement. C'est parce que tout ce qui était la post-production du film a été fait ici à Genève. Et la musique, alors, c'est une collaboration avec un musicien espagnol, Pablo Garmon, Et donc, on avait une maquette en salle de montage. Pareil, le montage, on l'a fait ici à Genève avec Damien Planolite, un monteur argentin lui aussi, mais qui vit depuis longue date à Genève.
De donde?
Et lui, il vient de Buenos Aires.
Ah, de
Moi, je
la
viens du
capitale,
nord,
voilà,
de
Tucumán.
Tucumán. Et donc, ça, c'était aussi une très chouette collaboration qu'on a, voilà, on a essayé. Puis, c'était un plaisir de travailler avec lui aussi. Et donc, on avait une maquette par rapport à la musique, une maquette faite avec des bouts de musique pour un peu une impression de ce que ça pouvait, de ce que je cherchais comme univers musical et puis de ce qui était possible de faire aussi avec ces images, avec ce type de montage, ce type de film. C'était possible ou pas d'amener de la musique. Et donc, sur cette maquette-là, on a travaillé avec Pablo. Et avec l'autre Pablo,
Beaucoup de
Garmon.
Pablos,
Ouais, tout à coup, ça fait un duo de Pablo
hein?
aussi dans le film.
Ouais.
Et puis
Une
avec.
trinité presque de Pablo, hein?
Oui. Et donc là, voilà, c'est avec lui ici à Genève qu'on a travaillé. Et à un moment donné, il nous fallait aussi un trombone, une trombone. Et Ludovic, on a travaillé avec Ludovic Lagagna. À Kitchen Studio aussi, on a enregistré le trombone, la trompette. Donc, ça fait partie presque de cette étape à la toute fin, quand le montage était déjà prêt et avant de passer au mix, qu'on a travaillé cette musique-là. Et là, pareil, on a fait des allers-retours avec Pablo Garmon pour trouver exactement ce qu'il fallait, en fait, entre se comprendre au départ avec l'idée, avec ce que je cherchais, et puis ces premières propositions qui étaient déjà très très proches de ce que je cherchais, dans peu d'échanges finalement, il a compris en fait ce qu'il fallait et il a amené vraiment exactement ce que je cherchais. Et puis après, c'était impossible de faire un retour en arrière, voilà. Donc c'était une fois qu'il avait amené la musique juste, qui est celle qui est restée dans le film, c'était clair que c'était qu'on avait bien fait de travailler comme ça, parce que c'était encore une possibilité, hein. Disons que si la composition musicale ne marchait pas, reprendre le montage pour s'en passer de la musique. Mais en fait, voilà, là, on a vraiment trouvé l'équilibre avec lui.
Donc on comprend mieux maintenant que c'est une coproduction suisse, espagnole et les États-Unis, si je ne me trompe pas,
Oui.
mais qu'on retrouve un réalisateur argentin à Cuba, parce que c'est un concours de circonstances, puisqu'il y avait cet atelier à la base. Sinon, ça aurait pu se passer sur un autre endroit, pas
Oui.
forcément à Cuba, même si c'est une île qui est très inspirante.
Oui, non, c'est vraiment un concours de circonstances assez particulier pour lequel on se retrouve avec disons, plein de nationalités différentes à travailler ensemble. Même le côté de la coproduction en Espagne, à Barcelone, et la coproductrice, elle est colombienne. Et voilà, son assistante de prod qui a travaillé avec nous aussi déjà dans la partie de promotion du film, qui travaille actuellement avec nous. Elle vient de Bolivie, de La Paz. Et voilà, donc c'est vraiment
Ça,
un vrai micmac de nationalités. C'est très
latino-américain.
chouette. Oui, c'est très très chouette. Et bien pas que. Pour
Pas
moi, c'était
que.
aussi très très chouette de pouvoir travailler avec des Américains dans un film à Cuba.
Avant qu'il y ait le mur entre l'Amérique du Nord et le
Oui,
Mexique.
oui, oui, oui. Et disons que bon, bah, après, il y a une sorte de mur historique, non, qui sera le plus difficile à franchir entre les États-Unis et Cuba.
Mais pourtant,
Mais.
quand on songe à toute la région du Texas et de la Californie, ça a toujours été hispanophone.
Oui, complètement, complètement. C'est vraiment. C'est une question historique ou politique,
Oui,
n'est-ce pas?
les frontières restent artificielles quand même.
Voilà. Et dans ce sens-là, disons de pouvoir travailler avec un duo de Nashville, là, qui est très américain, vraiment
Puis ça
très très
résonne, Nashville,
américain,
hein?
c'est
Des
récent.
références, hein?
Oui. Et
Et,
donc,
et,
dans
et...
ce sens-là, c'était chouette, disons de pouvoir travailler sur un sujet tout à fait universel et travailler
Oui, puis en plus,
dans.
le passage de l'enfance à l'adolescence, c'est un sujet qui touche vraiment toutes les cultures, de toute façon. Ça
Oui.
parle à tout le monde.
Et pouvoir faire une œuvre qui est très lyrique, très poétique. Dans une combinaison dans laquelle il y a des Américains et sans passer mais complètement de ces barrières-là, c'était vraiment aussi une chouette expérience.
Alors, une question plus personnelle, Pablo. En début d'interview, on a dit que tu venais de San Miguel de Tucumán, dans le nord de l'Argentine. Tu as étudié à l'université de Cordoba, un peu plus au sud. Et le cinéma argentin se porte très bien. Il y a une nouvelle vague de cinéma argentin qui est très dynamique. Est-ce qu'il y a des envies d'aller tourner là-bas?
Ah, c'est clair. Moi, ça fait des années que j'ai envie de travailler en Argentine. Et après, c'est des circonstances un peu compliquées actuellement en Argentine. Les fonds de financement public, ce qui est l'équivalent de l'Office fédéral de la culture, donc le INCA, et les fonds, ils ont été gelés. Donc il y a eu malheureusement, très malheureusement, ces élections-là, dans lesquelles Macri a été élu, qui est un homme très nocif pour la culture, et en l'occurrence,
il est pas le seul,
qui n'est pas le seul. Et malheureusement, ben voilà, donc du moment où lui il est arrivé au gouvernement, il y a eu énormément de pertes dans le champ de la culture et dans le champ du cinéma aussi. Et des très mauvaises décisions qui ont été prises, et la plus dramatique et assez flagrante, c'est que les fonds ont été gelés et pendant tout 2018, et ça s'est renouvelé pour 2019. Tant qu'il sera là, j'espère pas, mais pour le moment, ça s'annonce un peu comme ça. Et ça rend pas seulement impossible de développer de nouveaux projets, mais même les projets qui avaient déjà eu l'agrément de financement, ils ne peuvent pas se faire.
Ils sont bloqués.
Ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se faire. Cela veut dire aussi qu'il y a un trou professionnel qui se fait, parce que pendant toute cette période-là, les gens perdent la main aussi sur le cinéma. Du coup, pour moi, depuis la Suisse, de faire un film là-bas, et ça reste pour le moment une chimère.
Il n'y aurait pas les autorisations non plus?
Pardon?
Il n'y aurait pas les autorisations?
Non, si. Non, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Et puis, il y a toujours des gens très compétents et des gens que j'aime beaucoup aussi là-bas avec qui j'aimerais travailler. Et après, il faut trouver le financement pour faire un film là-bas. Et pour moi, je n'ai pas eu beaucoup de chance pour le moment, ici en Suisse, pour le financement. Heureusement, Cinéforum nous a soutenus, donc le fonds régional ici en Suisse romande, nous a soutenus pour ce projet, pour Barakoa. Mais pour le reste de mes projets, je n'ai jamais obtenu de soutien.
Est-ce que le fait d'avoir été à la Berlinale, ça va changer quelque chose?
J'espère que ça donne un peu plus de crédibilité à mes futures demandes. Mais disons que le pourquoi, c'est toujours un peu subjectif, tout le monde a un peu une vision un peu différente de la chose, mais moi j'ai quand même un peu l'impression que mes projets ils ont été très peu suisses jusqu'ici, même si voilà, ma vie dans mon quotidien est absolument suisse.
Depuis 10 ans
moi,
déjà.
Moi j'habite depuis 10 ans ici, donc ma vie depuis 10 ans, elle est ici. Et je me fais, disons, je participe beaucoup aussi à la vie culturelle ici. Par contre, c'est vrai que mes projets n'ont pas été jusqu'ici des projets qu'on peut facilement identifier comme quelque chose de suisse. Donc des projets au Portugal, moi, pour le moment, je suis complètement identifié comme un réalisateur argentin, que argentin. Et donc, je pense que ça n'a pas facilité les choses pour la demande de financement. Après, il y a aussi des projets dans des configurations similaires qui obtiennent quand même du financement, donc on ne peut jamais vraiment savoir.
Comme dit avant, c'est subjectif.
Voilà, c'est très subjectif, il y a le hasard au milieu, bref. En tout cas, jusqu'ici, je n'ai pas eu beaucoup de chance pour le financement. Et c'est pour ça aussi, donc j'ai tenté de développer un projet en Argentine, ça n'a pas été possible. Et puis il y a eu aussi cet atelier avec Kiarostami qui est arrivé au moment où j'aurais dû continuer à insister avec ce projet en Argentine. Il y a eu cet atelier qui était le début de toute cette histoire de Barakoa.
De Pascal d'abord. Et
Pascal, Barakoa.
Ça a été très bénéfique.
Très bénéfique. Donc c'est un parcours aussi de production complètement différent au traditionnel. Et pour ça, je suis aussi très content que ça a été comme ça, avec cette triple coproduction, avec le producteur genevois Benjamin Poumet, Seaside Productions, qui a investi aussi dans le projet pour le mettre en production, alors qu'on n'avait pas le temps de faire une recherche de financement pour le développement. On ne pouvait pas prendre les temps traditionnels de financement. Et Donc, je suis très content avec cette expérience dans ce sens-là, qu'on a vraiment un démarrage qui est très différent aux démarches traditionnelles des projets. Et maintenant, j'ai toujours mon envie de filmer en Argentine. Après, pour le moment, je crois que je réfléchis encore à ce qui serait le mieux, quel serait le projet juste en fait. Parce que travailler dans un projet de film, c'est toujours beaucoup, vraiment beaucoup d'investissement de temps, d'énergie. Et on fait beaucoup en amont. Et donc le faire sans savoir un peu, un minimum, une sorte d'espoir, disons que c'est le
Le
bon
chemin à
choix,
suivre.
ouais, le choix à suivre par rapport au financement, moi, ça me fait un peu de soucis. Après, je rencontre beaucoup de monde que j'aime beaucoup aussi, des gens que j'apprécie bien, et des professionnels aussi de la branche qui me disent qu'il faut faire le projet auquel on croit. Et donc c'est une idée très romantique qui me plaît beaucoup, mais dans mon expérience personnelle, c'est pas la réalité, parce que j'ai déjà fait ça pendant longtemps, et voilà, c'est un peu la vie de Don Quichotte. Donc je suis un peu comme un volcan, je développe plusieurs projets en même temps. Donc pour moi, ce n'est pas un pro, un sou, disons, la créativité, ça n'a jamais été un souci. Et du moment où je sais qu'il y a une voie dans laquelle ça vaut la peine de vraiment focaliser toute mon attention, ça part et ça va très vite. Et donc maintenant, j'attends peut-être de trouver la configuration du point de vue de la production, la configuration juste, et pour me lancer dans un projet ou un autre. Et cette configuration-là, disons que je n'en ai pas encore aujourd'hui, surtout parce qu'il y a eu la Berlinale au milieu, parce que ça ouvre plein de possibilités dans le sens où j'ai été contacté pas seulement que par des journalistes, mais aussi par des gens de la production,
Les distributeurs.
des distributeurs, des gens de la mais des gens du côté de la production, des producteurs des différents pays. Et voilà, donc ça, disons qu'il y a plein de
Ça change les
constellations
donnes.
possibles. Oui, ça change la donne, et il faut pas non plus se perdre là-dedans. Mais par contre, je crois que ça vaut la peine de prendre quand même un pas en arrière, et respirer un petit peu, laisser passer l'événement, et analyser ce qui est possible. Et puis là-dedans, dans ce qui est possible, qu'est-ce qui me fait le plus envie? Alors pour le coup, là oui, il faut quand même, c'est vrai, il faut quand même retrouver, avoir beaucoup d'envie, et puis
Et de passion.
et de passion dans le projet dans lequel on va investir autant d'énergie et de temps.
En filigrane, si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a déjà quand même des choses qui sont écrites, qui
Oui,
sont
oui,
prêtes
oui.
à...
Ah oui.
Tocca Madera e tocca hierro, comme c'est dit en italien. Et juste une dernière question, comment ça se fait qu'on retrouve Pablo Beyoneres qui vient de Tucumán en passant par Cordoba à Genève?
Ah.
Par amour.
Je ne me rappelle plus.
Ah, c'était pas par amour, alors ça
Non,
va.
c'est. Moi, j'aime pas trop le cinéma traditionnel, voilà, où il y a toujours une histoire d'amour au milieu,
En fait,
mais
c'était une
voilà. Mais c'est
escale pour aller
ça.
à Moscou, et puis l'avion est resté à Genève, c'est ça?
L'avion, ouais, une
Ouais, bah
question de
voilà.
météo. Non, c'est une histoire d'amour qui m'a amené à Genève, et c'est aussi une histoire de désamour
Laissé à Genève.
qui m'a laissé à Genève. Non, disons que l'histoire de désamour allait m'extraire de Genève, et juste avant que cela arrive, juste avant que je parte de Genève, alors que j'avais déjà presque un pied sur le, voilà, un pied à l'extérieur déjà. Et c'est aussi une autre histoire d'amour qui m'a gardé ici à Genève. Et donc,
Ça, c'est romantique aussi, ça pourrait faire un
c'est beaucoup
scénario.
trop romantique. Non, disons que, alors, je dirais aujourd'hui que la raison pour laquelle je suis toujours ici à Genève, c'est parce que j'ai trouvé ici à Genève la personne juste avec laquelle je partage ma vie et avec laquelle on a un enfant aujourd'hui de 9 mois.
Félicidades. 9 mois.
Gracias. Et 9 mois,
Presque
Cosma.
comme le film.
Oui, absolument. C'est aussi un peu toute l'histoire de naissance, et très, très, de
Et comment se
gestion des
llama?
naissances, elle est très mêlée à
Ah,
la gestion
sur du film.
et à la
Et comment
naissance
se
du film.
llama?
Cosma.
Cosma.
C'est un nom italien. Voilà, la maman, elle était sinoise.
Félicitations.
Muchas gracias.
Et donc, ben, on attend. On sait qu'il y a des projets qui sont là déjà en latence. Et qui, voilà, on attend peut-être que les fruits de la Berlinale se récoltent.
Oui, espérons déjà pour ce film-là
Qui sortira,
qu'il
on peut
soit
dire,
vu.
quand est-ce qu'il sort sur les écrans en Suisse?
Sur les écrans en Suisse, on n'a pas de date encore, mais on n'est pas pressé parce qu'on aimerait d'abord nous concentrer sur la vie en festival du film. On est très sollicité. Pour le moment, on ne peut pas trop s'avancer parce que ça reste quand même des sélections confidentielles pour le moment. On a très envie hein, de les partager. Mais il aura une chouette vie cette année. Et pour le moment, il s'agit plus d'accompagner ce film-là dans ce festival. Et puis, pour la sortie en salle, ça sera un peu plus tard, peut-être vers la fin de l'année. Espérons. Voilà.
Une vie trépidante. Merci Pablo.
Merci à vous. Il n'a pas fait.